bien, je pense que nous pourrions maintenant commencer. En préambule, je vous remercie d'être venu et par la même occasion, je voudrais remercier la librairie Mola de m'avoir invité à l'occasion de la parution du livre que j'ai écrit avec Marie-Christine Hubert au sujet du sort des Tziganes en France pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai confié à Adèle Sutre le soin d'animer ce débat, cette rencontre. Adèle prépare à Paris, dans le cadre de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, une thèse de doctorat sous la direction de Henriette Asséo. Et le travail, le champ de recherche qui est celui d'Adèle, touche à la question de l'ancrage territorial bohémien, l'ancrage territorial des Tziganes en Aquitaine à partir du début du XIXe siècle jusque dans les années 1930. Voilà. Alors, je laisse la parole à Adèle.
Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Emmanuel Fiol pour m'avoir invité à présenter son livre, parce que c'est un honneur pour moi de présenter ce livre qui est essentiel dans la mesure où il traite une partie de notre histoire à tous et une partie qui est souvent oubliée ou simplement méconnue. Pour ça, j'ai relevé une phrase dans la préface du livre d'Henriette Asséo, donc sous la direction de qui je travaille à l'EHESS, qui écrit « La mémoire patriotique de la persécution nazie fut sélective ». Et cette phrase me semble importante, puisque ce livre ravive justement la mémoire de l'histoire des Tziganes en France pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'Emmanuel Fiol et Marie-Christine Hubert nous livrent un ouvrage qui est à la fois riche en enseignements et qui en même temps retrace avec sensibilité un épisode sombre de notre histoire. Donc je vais présenter rapidement les auteurs. Donc Emmanuel Fiol est enseignant-chercheur à Bordeaux 1 au sein du laboratoire Épistémé, et ça fait déjà de nombreuses années qu'il s'intéresse à l'histoire et à l'historiographie des représentations des Tziganes dans les arts et la littérature, mais qu'il s'intéresse également à l'histoire de l'internement des Tziganes en France. Je voudrais citer deux livres en particulier qu'il a publiés. « Un camp de concentration français, les Tziganes alsaciens lorrains à Crest, 1915-1919 ». Donc, il s'est intéressé à l'internement des Tziganes alsaciens lorrains pendant la Première Guerre mondiale. Et également, « La mémoire et l'oubli, l'internement des Tziganes en France », qui traite la question de la mémoire de l'internement des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est également l'auteur de nombreux articles, donc pour en citer quelques-uns, qui m'ont paru importants dans ce cadre. L'indifférence collective au sort des Tziganes internés dans les camps français, la loi de 1912 sur la circulation des nomades en France, les Tziganes en Gironde pendant la Seconde Guerre mondiale, l'internement et la déportation des Tziganes français sous l'occupation, Mérignac, Poitiers, Sachsenhausen. Donc, on voit que c'est un sujet sur lequel Emmanuel Fiol a beaucoup publié. Et je voulais également noter qu'il a été en 2003 coordonnateur d'un colloque européen en hommage à François de Vaudefoltier. Et donc François de Vaudefoltier, pour le dire rapidement, était historien, archiviste aux archives de Charente-Maritime et également de la Seine. Et il a écrit des ouvrages qui aujourd'hui sont considérés comme des ouvrages de référence. Les Tziganes dans l'ancienne France, Les Bohémiens en France au XIXe siècle, Le monde des Tziganes, Mille ans de l'histoire des Tziganes. Donc, Emmanuel Viol s'inscrit en quelque sorte dans cette généalogie d'historien sur les Tziganes. Marie-Christine Hubert, quant à elle, est historienne et archiviste aux archives départementales de Seine-Maritime à Rouen. Ses travaux portent sur la Seconde Guerre mondiale puisque sa thèse de doctorat soutenue en 1997 s'intitule « Les Tziganes en France, 1939-1946, assignation à résidence, internement, déportation ». Et elle est notamment l'auteur de l'article sur les réglementations anti-tziganes en France et en Allemagne avant et pendant l'occupation. Et elle a participé au colloque en 2003 organisé en hommage à François de Vaudevoltier, où elle a signé un article intitulé « L'internement des tziganes, une page oubliée de notre histoire, redécouverte par l'exploitation des archives des camps d'internement ». Donc cet ouvrage, comme je le disais, est essentiel parce qu'il traite de la question de l'internement des tziganes en l'inscrivant dans son contexte historique. Et dans ce livre, Emmanuel Viol et Marie-Christine Hubert démontent minutieusement la machine de l'internement français et en restituent les mécanismes complexes. Affaire franco-française enchâssée dans la politique raciale allemande, l'internement des tziganes est une décision allemande, une application française, pour reprendre le titre de l'une des sous-parties du livre. Peu à peu, au fil des pages, les différents acteurs se mettent en place. Les Feldkommandants ordonnent aux autorités françaises d'organiser l'internement. Les décisions allemandes se transforment alors en arrêtés préfectoraux pour ne laisser aucune trace de l'ingérence allemande, ces arrêtés transformant la décision allemande en décision française. L'application de l'ordonnance repose alors sur la gendarmerie qui recense les nomades des départements, choisit l'emplacement des camps et procède aux internements. Le point sur lequel j'avais envie d'insister dans cette brève introduction, c'est la notion de traduction de l'ordre des autorités allemandes dans la culture administrative des préfets. C'est un point qui est essentiel pour comprendre la spécificité du cas français et de ces camps de nomades, puisque les ordres sont donnés en allemand et les Allemands mentionnent l'internement de Zigeuner. Zigeuner en français signifie Tzigane. Or, comme c'est souligné à juste titre dans le livre, l'administration française ne reconnaît pas juridiquement le terme de Tzigane. Et la traduction va alors se faire de Zigeuner à nomade en s'appuyant sur la loi du 16 juillet 1912, qui est une loi donc française, et qui crée cette catégorie de nomade au contour assez flou, ce qui explique également un internement parfois aléatoire et arbitraire, de même que des libérations arbitraires. La raison pour laquelle j'ai voulu insister sur ce point, c'est parce que il est important de comprendre que parmi les nomades, il y a des tziganes, mais pas seulement, puisqu'on peut retrouver parmi le terme de nomade, la catégorie de nomade et la loi de 1912, des forains étrangers, des Français non tziganes qui exerçaient des métiers itinérants. Et le flou de ces représentations se retrouve autour justement de la question de l'internement et de la spécificité française. Enfin, un dernier point que je voulais noter sur cette spécificité française et que les auteurs ont à cœur de souligner dans leur ouvrage, c'est que les tziganes internés étaient majoritairement français, contrairement à une idée qui peut être répandue. Et c'est ce qui fait dire à Henriette Asseau dans sa préface que les internés français de longue date ont payé le prix de leur enracinement pluriséculaire en France. Enracinement pluriséculaire qui est développé dans la première partie du livre qui retrace l'histoire, ce qui est fondamental, l'histoire des tziganes en France. Enfin, dans sa préface, pour reprendre à nouveau les mots d'Henriette Asseau, elle écrit que l'unité du phénomène masque la diversité des destins. Et c'est ce qui m'a semblé être vraiment le mérite de ce livre, c'est qu'au-delà de la reconstitution des modalités de l'internement, des jeux d'acteurs, des enchaînements de faits, ce livre restitue la vision d'un internement à hauteur d'homme. Tout d'abord, il faut noter qu'il y a un chapitre entier consacré à la vie quotidienne dans les camps d'internement des familles nomades, où les problèmes quotidiens auxquels étaient confrontées les familles sont exposés avec justesse. La faim, le froid, l'insalubrité sont illustrés par des exemples précis tirés des archives. Puisqu'Emmanuel Viol et Marie-Christine Hubert font preuve d'une connaissance parfaite des archives qui sont exploitées de façon à la fois à restituer les grandes lignes des événements politiques, mais également à restituer les destins personnels qui s'entrecroisent et affleurent au détour d'une lettre d'un détenu ou d'un rapport administratif. Et à l'exploitation de ces archives s'ajoute la présence de témoignages d'anciens internés qui complètent par la mémoire des familles celle des archives. Et ça me semble très important puisque ce livre enregistre et met en contexte ces témoignages qui sont d'autant plus précieux qu'ils sont rares à mesure que le temps passe et qu'il s'agit d'une partie du patrimoine mémoriel de la France qui ne doit pas disparaître avec ceux qui se souviennent. Donc, pour terminer cette introduction, dans ce livre, la mémoire des archives et la mémoire des familles s'entrecroisent pour esquisser une mémoire de l'internement des Tziganes en France qui n'est aucunement contradictoire avec la mémoire, la construction d'une mémoire européenne du génocide tzigane en Europe. Et ce livre a en tout cas le mérite de contribuer à faire connaître cette partie de l'histoire française qui est souvent, comme je l'ai dit au début, soit oubliée, soit méconnue. Et à ce titre, on peut rapprocher ce livre du film de Tony Gatliffe, Liberté, qui par sa très large diffusion contribue également à faire connaître cette histoire. C'est sa parole.
Merci Adèle, merci. Je vous remercie Adèle. Alors, mon intention, n'est-ce pas, est de, bien sûr, nous réservons une demi-heure pour le débat. Mon intention, disais-je, est de faire circuler par moment quelques documents que j'ai donc là sous la main et qui viendront peut-être en quelque sorte ponctuer certains éléments réflexifs au sujet de mon intervention. Alors, je crois que ce que je souhaiterais d'abord dire, c'est que nous avons dans ce livre, l'objectif, n'est-ce pas, de ce livre, est de rendre compte des faits et des situations dans lesquelles, auxquelles ont été confrontés les Tziganes en France, je devrais dire les Tziganes aussi de France, on y reviendra, pendant la période de la Seconde Guerre. Donc, rendre compte d'un certain nombre de faits très, bien évidemment, qui ont scellé leur destin tout au long de cette période. Pour mener cette étude historiographique, eh bien, nous sommes bien sûr appuyés sur l'étude des archives. Alors, je voudrais dire une chose à propos de l'étude des archives, c'est-à-dire les archives départementales, les archives nationales, et les archives, en particulier les archives de la gendarmerie nationale, également à Paris, à Vincennes. C'est dire que, n'est-ce pas, il y a des traces objectives à travers des documents d'archives qui retracent, qui donnent à entendre les différents moments, les différentes décisions qui ont scandé l'histoire des Tziganes pendant cette période. Il est quand même utile pour nous tous, chercheurs et citoyens, de savoir que, en ce qui concerne l'accessibilité aux archives, c'est-à-dire la communicabilité des archives, touchant à la période de la Seconde Guerre, au fond des préfectures et à la Sûreté de l'État, ministère de l'Intérieur, eh bien, ces documents, ces archives ont été accessibles à partir des années 2001, vraiment, sans restriction. Nous pouvions, il était possible, n'est-ce pas, de bénéficier de dérogations. J'ai bénéficié, comme d'autres chercheurs, n'est-ce pas, de ces dérogations qui nous étaient données par les archives départementales et par les archives nationales. Donc, c'est important, de donner cette indication quand même, vous voyez, 2000-2001. « Donc il faut attendre quand même longtemps, hein, après les faits, après la, pour pouvoir y accéder complètement. Donc d'un côté, les archives. Mais ces archives ne sont pas les seuls matériaux qui sont bien sûr essentiels que nous avons convoqués. Il y a la deuxième partie ou l'autre face, n'est-ce pas, complémentaire, articulée, n'est-ce pas, à cette au document que Cadel a évoqué, à savoir la mémoire des victimes. Alors, la mémoire des victimes, n'est-ce pas, nous avons pris soin de la restituer, la mémoire, les mémoires, au pluriel, à partir de deux choses essentielles. Les témoignages écrits que l'on trouve, qui sont nombreux, au sein des archives, des préfectures, archives des camps. Ce sont des lettres collectives, très souvent collectives, mais pas que collectives, des lettres aussi de famille, des lettres aussi individuelles, qui sont adressées, qui au préfet, qui à un ministre, qui au maréchal Pétain. On en trouve en particulier des lettres adressées à maréchal Pétain à travers les archives, les documents d'archives qui sont dans le Loiret, aux archives départementales, pour le camp de Jargeau. Donc, n'est-ce pas, ce sont ces deux dimensions, archives et mémoire, et mémoire des témoins, mémoire des victimes, et l'autre aspect mémoriel, n'est-ce pas, des victimes, c'est, n'est-ce pas, le fait que nous ayons recueilli, bien après, n'est-ce pas, oui, bien après ces dernières années, les souvenirs qui étaient restés gravés dans la mémoire des personnes, des familles. Et donc, pourrais comme ça évoquer ces moments très émouvants qui étaient, n'est-ce pas, ceux qui m'ont conduit dans les familles avec un magnétophone sur la table, dans les maisons, dans les maisonnettes des familles. Et dans ce département, pas simplement que dans ce département, j'y reviendrai, et qui ont raconté, dans un silence impressionnant, où toute la famille, au sens, la famille Tzigane, c'est la famille élargie, bien sûr, avec tous les collatéraux, hein. Et je pense qu'il y a peut-être des personnes dans les familles qui entendaient peut-être, qui ne savaient pas. Qui ne savait pas, n'est-ce pas, cette douleur, cette fracture de l'âme tzigane qui s'était produite pendant ces années noires. Et donc, ce livre tente de restituer une part de ces épreuves vécues à travers les récits de familles, hein, de victimes tziganes. Voilà donc un peu donc ces deux dimensions qui ont œuvré dans ce travail. Pour résumer, n'est-ce pas, les étapes, eh bien, du destin, du sort fait aux tziganes en France pendant la période de 39-46, on reviendra sur le titre, et puis les dates, bien sûr, 39-46, surtout la deuxième. Et puis le titre lui-même, un sort à part. Pourquoi ? je vais donner les scansions, les phases qui sont les phases déterminantes. Ces phases se résument à ceci. Assignation à résidence, internement, déportation. Déportation pour certains d'entre eux. Donc, ce sont les trois moments, n'est-ce pas, qui structurent cette période pour les situations qu'ont vécues les Tziganes en France, les Tziganes français, surtout français, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais avant d'examiner certains des aspects que je viens de résumer, je ne peux pas ne pas, pour comprendre la logique qui va se déployer, cette logique répressive, je ne peux pas ne pas revenir en arrière pour essayer d'éclairer un aspect qui va, n'est-ce pas, peser sur le destin des Tziganes. Ce retour en arrière, n'est-ce pas, concerne la loi de 1912. Alors, la loi de 1912, qui a été préparée par des discussions au Parlement, qui a été préparée par des mesures qui s'appellent le recensement en 1895, en mars 1895, des bohémiens dans tous les départements, qui a été aussi initié par l'encartement en 1908 et 1909 des familles bohémiennes par les brigades mobiles de police, création de Clémenceau fin 1907, ces brigades mobiles se sont chargées d'arrêter et les familles et de les ficher. Eh bien, ces différentes mesures de surveillance, d'identification vont conduire à la loi du 16 juillet 1912. La loi du 16 juillet 1912, c'est une loi qui distingue trois catégories d'itinérants. Les marchands ambulants, les forains, et puis la troisième catégorie, administrative, les nomades, avec les guillemets. C'est pas le nom que les Tziganes se donnent à eux-mêmes, bien évidemment. 16 juillet 1912. Alors, au premier, un récépissé. Au deuxième, les forains, une carte d'identité de forain, avec photo d'identité, quelques mensurations. La condition, c'est d'avoir des activités considérées comme telles. Pour les marchands ambulants, il faut avoir une adresse fixe. Et pour les troisièmes, qui sont définis, c'est très intéressant, négativement. D'ailleurs, il y a toujours une sorte d'idéologie, n'est-ce pas? J'aurais pas tellement de choses à dire à ce sujet. De la négativité, qu'il s'agisse des dictionnaires, des encyclopédies, du discours politique, n'est-ce pas, à leur égard. Ils sont, alors, je cite l'article 3, ils sont ni ceci, c'est-à-dire ni marchand ambulant, ni forain. Or, ce qui est faux, d'ailleurs, hein, ce type de classement est un classement aussi idéologique, qui a une dimension, qui présente une dimension idéologique, puisqu'il y a des Tziganes qui ont des professions de forains, et aussi parfois de marchands ambulants. Donc, on va les mettre dans la catégorie numéro 3, et l'on va dire, n'est-ce pas, quelle que soit leur nationalité, c'est intéressant, vous voyez la formulation, c'est-à-dire français et étranger. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle la loi de 1889, fondée sur le jus soli, n'est-ce pas, fonde la nationalité, la citoyenneté française sur le droit du sol. Bon, il y a beaucoup de Tziganes, Adèle a rappelé à travers les travaux d'Henriette Océo, n'est-ce pas, que l'ancrage Tzigane, c'est le 15e siècle. Ça remonte au XVe siècle. Bon. Et ils le sont, a fortiori, aussi, vous voyez, par cette loi de 1889. Bien. Donc, quelle que soit leur nationalité. Donc, il y a aussi une visée xénophobe. l'égard des tziganes étrangers. Et le texte dit ceux qui prétendent exercer des activités. Vous voyez la suspicion à l'égard, n'est-ce pas, de cette catégorie dont on dit que vraiment les professions. Bon. Alors je m'arrête un instant parce que n'est-ce pas, quand on dit les choses sérieuses, hein, et qu'on étudie en particulier les archives, eh bien, n'est-ce pas, on voit que pour le recensement de 1895, les professions, les activités, etc., je veux dire, elles sont extrêmement diverses. Hein. Je pourrais vous les décliner, n'est-ce pas, elles sont très nombreuses. Bon. Donc, la loi de 1912 va, alors je m'imposer aux bohèmes, aux bohémiens, aux tziganes, qui s'appellent nomades, deux carnets. Alors je fais passer un premier document, justement sur la manière dont cette loi va s'appliquer, hein, la façon dont elle va s'appliquer à partir d'une coupure de presse de l'époque, du journal Le Matin. Aux tziganes, on impose deux carnets. Un carnet anthropométrique, obligatoire dès l'âge de 13 ans, et un carnet collectif. Et sur ce carnet individuel, vous avez toutes les mensurations. Photos, empreintes digitales, etc. Et puis des cases qui sont réservées pour les visas dans les communes d'arrivée et de départ. Si bien que vous avez des carnets qui font au début 200 pages, hein, vous voyez, parce que la loi est appliquée en 1913, et qui sont couverts de visas. Bon. Couverts de visas. Et vous avez une description très précise de la roulotte. Hein. Vous avez donc tous ces éléments qui figurent, et pour le carnet familial, le carnet collectif, hein, le carnet collectif, eh bien vous avez toutes les indications concernant la situation des membres de la famille. Vous avez des empreintes digitales, des enfants. Alors c'est très intéressant, je m'arrête un instant sur les enfants, parce que on trouve, n'est-ce pas, des empreintes digitales d'enfants qui ont moins de 2 ans, qui ont été conduits soit dans les prisons, qui s'occupent de ça, les gendarmeries, avec les brigades mobiles de police. Bon. Et parfois dans les prisons, on les conduit. Et donc il y a tout cet appareil qui, n'est-ce pas, de fichage, d'identification, fichage, et qui vise les enfants aussi, vous voyez, moins de 2 ans. On va retrouver les empreintes digitales sur les carnets des enfants, sur les carnets collectifs. Sur les carnets collectifs, on a aussi des indications en fin de carnet concernant le suivi médical. Hein, parce que, bah oui, bien sûr, dans la République de Pasteur, bien sûr, hein, je crois qu'il faut l'entendre aussi, le danger au propre et au figuré que pourrait constituer comme vecteur de maladie sociale, hein, cette catégorie. D'ailleurs, on l'évoquera, du côté de l'Allemagne nazie, bien, on aura, n'est-ce pas, aussi un discours considérant les tziganes comme des asociaux, mais pas que simplement comme des asociaux, mais aussi comme, n'est-ce pas, comme une sous-race. Alors, il y a toute la dimension raciale, bien sûr, côté allemand, côté de l'Allemagne nazie. Donc, ce dispositif se met en place très vite, si bien que on sait très aisément l'institution policière, le ministère de l'Intérieur, les préfectures, les sous-préfectures, non seulement ont les carnets, etc., mais aussi ont des notices. Alors je voudrais faire passer une notice. Hein, ça va donner des indications avec le carnet collectif, Adèle, merci. Hein, ont donc tous les pièces administratives pour suivre pour retrouver, pour interpeller, parce que, je vous dis, les notices individuelles collectives, les carnets, etc., c'est la population fichée par excellence. Hein, fichée. Je signale quand même au passage que les carnets d'identité, pour les Français, pour les citoyens français, n'existent pas. Ça n'existe pas en 1912, n'est-ce pas ? Et les Tziganes, n'est-ce pas, sont les premiers. Ça va être un banc d'essai, vous voyez, parce que le carnet d'identité de Français, c'est une création de Vichy. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je m'arrête. Un dernier mot. On peut dire que cet appareil administrativo-bureaucratico-idéologique de fichage et de répression, de contrôle et de fichage, et contribue à identifier les Tziganes comme des criminels récidivistes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la méthode Bertillon, qui est utilisée pour ficher les empreintes, etc., les mensurations, c'est ce que on applique dans les prisons à l'égard des criminels récidivistes dès les années 1800. Bertillon met au point sa méthode, etc., dès les années 1883-84, etc. Et donc cela va se poursuivre. Premier point. Et puis aussi, pour ce qu'on appelle les interdits de séjour, eh bien, vous avez une loi en 1935, qui va doter les interdits de séjour d'une pièce qui s'appelle laquelle ? Carnet anthropométrique. Donc vous voyez, n'est-ce pas, hein, combien la population tzigane, n'est-ce pas, est assimilée à une population criminogène. Cette loi de 1912... va produire des effets dans le cadre de la Seconde Guerre. Va produire un effet qui est le suivant, à savoir que, après avoir interdit en 1939 à des familles de circuler et de stationner dans certains départements de l'ouest de la France, eh bien, le président du Conseil adresse au président de la République, soumet au président de la République un décret-loi, le décret-loi du 6 avril 1940, dont je vais lire les préambules, si vous me le permettez. Alors, ce décret-loi du 6 avril, que dit-il ? Monsieur le Président, en période de guerre, la circulation des nomades, individus errants, généralement sans domicile, ni patrie, ni profession effective, ni, constitue pour la défense nationale et la sauvegarde du secret un danger qui doit être écarté. Les incessants déplacements des nomades, qu'il ne faut pas confondre avec les forains, ou commerçants pour la plupart honorablement connus, leur permettent de surprendre des mouvements de troupes, des stationnements d'unités, des emplacements de dispositifs de défense, renseignements importants qu'ils sont susceptibles de communiquer à des agents ennemis. Il convenait d'interdire la circulation des nomades et de les astreindre à résidence forcée sous la surveillance de la police et de la gendarmerie. Tel est, Monsieur le Président, l'objet du décret que nous avons l'honneur, etc. Bon, eh bien, n'est-ce pas ? Bis repetita, mais avec une nuance, bis repetita avec 14-18. Pourquoi ? Parce que c'est au motif que, selon lequel, les Tziganes, Sinte, Manouches d'Alsace et de Moselle, civils, à l'arrière du front et sur le front, sont des espions, n'est-ce pas ? Éventuels que le ministre de la Guerre et l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, prennent les décisions de diriger les nomades, romanichels, on les appelle romanichels, entre guillemets, vers les camps de triage, ça s'appelle comme ainsi, et ensuite vers les dépôts surveillés de l'ouest et ensuite regroupés dans le sud-est, près de Valence. Ce n'est pas la totalité, ce n'est pas tous les Tziganes, alsaciens, mosellans. Là, ce sont donc d'abord assignés à résidence, on va voir après, mais assignés à résidence, pas encore internés, assignés à résidence par la République finissante du 6 avril 1940. Donc, les nomades. Alors, les nomades, quels nomades? Les nomades de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1912. Ce sont eux qui sont concernés. Donc, il est décidé, n'est-ce pas, que de les regrouper dans une seule commune par département. Les problèmes vont se poser tout de suite. Lesquels? Eh bien, les élus de la dite commune vont dire « Non, 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 ces gens-là, on n'en veut pas. On ne veut pas les regrouper, on ne veut pas supporter ces gens-là. » C'est en particulier la réaction du conseil municipal et du maire de Libourne, puisque Libourne a été choisie comme la commune devant accueillir, si j'ose dire, n'est-ce pas, être le lieu d'assignation en résidence pour les Tziganes, pour les nomades Tziganes du département de la Gironde. Les décisions au cours du mois d'avril donc vont orienter le ministre de l'Intérieur vers une autre solution qui consistera à assigner en résidence les familles là où elles vivent. Mais à une condition, qu'elles ne soient pas trop près des villes, petit a, et qu'ensuite, elles soient, n'est-ce pas, pas trop éloignées des brigades de gendarmerie pour être contrôlées. Contrôlées de quelle façon? Eh bien, chaque semaine, n'est-ce pas, faire viser leur carnet individuel, montrer leur carnet collectif, etc. Le décret du 6 avril qui va être appliqué en Gironde, je prends un exemple qui est notre département, le département où nous sommes ici, l'application du décret commence le 20 mai. Donc, c'est assez rapide. La plupart, mais pas tous les départements, il y a des départements qui vont prendre plus tardivement l'application de ce décret, hein, qui vont l'appliquer plus tardivement. Donc, ces familles se retrouvent là et ne doivent pas dépasser un périmètre qui leur a été imposé. Et le décret-loi stipule que il n'est rien prévu pour les nourrir, à elles de se débrouiller. Je souligne cet aspect parce que vous verrez combien il aura aussi, n'est-ce pas, des incidences par la suite concernant la manière pour les familles de pouvoir vivre. Puisque les activités, n'est-ce pas, dans un rayon, s'épuiseront assez vite. Alors, il y aura, par là même, des problèmes. Les familles seront confrontées à des problèmes, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Après la défaite, le haut commandement et les zones libres, enfin les deux zones principales, il y en a bien d'autres, zones libres, zones occupées et zones sud et zones libres, le haut commandement militaire, le début octobre 1940, donne l'ordre, n'est-ce pas, de conduire les Tziganes. Adèle a évoqué la question, n'est-ce pas, de que recouvre ce terme, ce concept, cette nomination. ça n'apparaît pas tzigane, ça n'apparaît pas, n'est-ce pas, dans la loi, c'est nomade. Donc de conduire les familles, de les conduire dans des camps et de les interner. Bon. Les Allemands donnent l'ordre. L'ordre est allemand, du haut commandement militaire. Les Allemands participent-ils aux arrestations ? Très peu. Très peu. Ils interviennent, donc, en octobre, et en novembre aussi, parce qu'il va y avoir une deuxième ordonnance, le 22 novembre. Mais ils laissent le soin, n'est-ce pas, aux préfectures, à l'administration française, de s'en charger. Et c'est l'administration qui s'en charge. L'administration préfectorale s'en charge. Et l'administration préfectorale arrête, se tourne vers qui ? Eh bien, vers les nomades assignés à résidence. Et les nomades assignés à résidence, alors je dis tout de suite que ce sont des tziganes à 95% français. 95%. Les Roms sont peu nombreux dans les camps d'internement tziganes. Les gitans, les Calais, vont se retrouver dans des camps, en zone occupée, mais aussi en zone sud, je vais en parler. Donc, l'administration donne l'ordre, répercute l'ordre auprès des brigades de gendarmerie pour, n'est-ce pas, arrêter et conduire les familles, puisque c'est un internement familial, là aussi, on va y revenir, vers les camps. À partir de quand ? À partir de novembre, à partir de, on peut dire, du 16, c'est le cas ici à Mérignac-Beaudésert, à partir du 16 novembre. Et certains petits camps, entre guillemets, petits, oui, ce sont des petits camps au début, sont créés, certains, vous voyez, en décembre. Bon. Les camps, au total, sont au nombre de 30 camps. Alors, 30 camps. 25 en zone occupée, 5 en zone libre. En zone libre, c'est-à-dire surtout deux camps qui sont créés par Vichy. Le camp de Salières, en Haute-Camargue, et le camp de Lannemezan, où la famille rome de l'écrivain Matteo Maximoff, autodidacte qui a laissé plein de textes, de poèmes, et en particulier aussi des textes qui concernent l'internement de sa famille, dans deux livres que je voudrais citer, qui s'appellent « Dites-le avec des pleurs » et « Route sans roulotte ». Eh bien, ces camps sont créés par Vichy, Lannemezan et Salières. Et le camp de Salières, vous le connaissez, nous le connaissons. Nous le connaissons à travers quoi ? Nous le connaissons à travers un film que vous avez vu, qui est le film « Le salaire de la peur » de Clouzot, avec Montand. Puisque Clouzot a tourné, n'est-ce pas, dans les lieux du camp de Salières. Et à la fin du film, on a tout enlevé. Le contrat stipulait que bon, fallait tout enlever. Ça, vous voyez, donc ce qui nous permettra aussi d'aborder peut-être tout à l'heure la question de la mémoire et des traces. Ces camps ont regroupé à peu près 6500 personnes tziganes. Ces camps, je l'ai dit, ont un caractère familial. C'est par familles entières n'est-ce pas, avec les enfants, tout petits enfants, que les familles ont dû affronter cette situation. C'est la même situation, n'est-ce pas, en ce qui concerne les Tziganes, du grand Reich côté allemand, les Roms. Ce sont les familles, n'est-ce pas, Auschwitz-Birkenau, qui ont été dans ce camp d'extermination. Camp d'extermination, oui. Et en France, dans les camps d'internement, qui ne sont pas... Il faut bien aussi quand même différencier, hein, bien sûr, camp de concentration, camp d'extermination, camp d'internement. Eh bien, c'était des familles entières, donc, au sens très large du terme, qui se sont retrouvées dans des situations de dénuement. Alors, ce sont des camps improvisés. Improvisés. Rien n'est prévu. Les familles arrivent avec les roulottes. Et on construit un baraquement à Mérignac-Beaudésert. À Mérignac-Beaudésert, il y aurait tellement de choses à dire à propos de Mérignac-Beaudésert, mon Dieu. Et j'espère qu'un jour, il va y avoir une thèse, un doctorat sur, qui va, n'est-ce pas, donner lieu à un travail, à une publication sur le camp de Mérignac. Ça n'existe pas. Nous sommes en 2010. C'est un camp qui, n'est-ce pas, ouvre avec les Tziganes, qui est créé en novembre 1940, jusqu'en 1945. Eh bien, au camp de Mérignac-Beaudésert, qui a une petite caractéristique, les familles vont rester novembre, début décembre, elles sont transférées vers Poitiers. Mais on retrouve aussi des Tziganes internés en 1943 dans les archives. J'ai retrouvé hein, des 95 personnes en particulier. Il y a une caractéristique, dit le directeur qui visite les camps d'internement en France. Oui, les camps d'internement en France, pardonnez-moi, j'ai oublié quand même de dire une chose quand même qui mérite d'être dite. N'est-ce pas ? Sous Vichy, avant Vichy, 39, après Vichy, la République restaurée, les civils qui ont été internés dans les camps en France, ça représente combien de personnes ? 600 000. 600 000. Je ferme la parenthèse. Donc, ça resitue, n'est-ce pas, hein, le cadre répressif. Hein bon. Mais ça a commencé, les camps ont commencé avant Vichy. Ils ont commencé pour les étrangers, autrichiens en particulier, allemands, civils, qui ont été internés dans les camps en 1939, et les républicains espagnols. Bon. Bien. Ces camps, disais-je, sont construits dans l'improvisation la plus complète, et les familles vont vivre dans un dénuement matériel et moral très important. Et en particulier, ce qui revient dans les témoignages et aussi dans les lettres, parce que vous voyez, il y a tellement beaucoup de choses à dire à ce sujet aussi, c'est la faim. Oui, on a eu faim en France, bien sûr, en ce moment. La population a eu faim. Mais pour les Tziganes internés qui n'étaient pas aidés de l'extérieur par des associations caritative, il n'y avait pas d'aide pour les vêtements. Les enfants à Moidon-la-Rivière, n'est-ce pas, ils sont quasiment nus dans la boue, avec n'est-ce pas, tout ce que cela engendre comme maladie. Il y a de tout petits qui meurent, comme des vieux, faute de soins à travers des conditions matérielles déplorables. Et c'est dit on lit à travers la correspondance parfois du directeur des camps, général des camps, qui le dit parfois aussi, certains aussi le font savoir, des responsables de camps. Donc, c'est une situation de dénuement et matériel, moral et aussi de désespoir. De désespoir parce que aussi les familles ne comprennent pas. C'est incompréhensible leur situation. Ils l'écrivent, ils le disent. Ils ne comprennent pas. Mais pourquoi Pourquoi on les a arrêtés, hein, pourquoi on les a arrêtés, pourquoi on les a internés? Ils le font savoir. Si vous voulez, cet arbitraire traverse les lettres que j'ai pu avec Marie-Christine Hubert de son côté. Nous avons pu aussi lire et ensuite, à travers des témoignages, bien après, entendre des personnes. Ces camps vont être regroupés. Je vais un peu vite, j'avance. Ces camps vont être regroupés. Je vais donner quand même une carte. Oui, ces camps vont être regroupés. Merci Adèle. Ces camps vont être regroupés en des camps plus importants. Donc on va créer des camps régionaux. Voilà. Et ces camps sont gérés par des gardiens français, par la gendarmerie, c'est la préfecture qui s'occupe de la gestion. Bon. Et la situation va durer pendant toute la guerre. Pendant toute la guerre. Est-ce que les familles... Comment les familles... y a-t-il des modes de réaction, de résistance de la part des familles? Oui. Oui, j'ai dit les lettres, mais il y en a d'autres. La désobéissance aux ordres. Il y a aussi quoi? Le fait des évasions. Les familles s'évadent. Pas toujours, parce que les familles craignent que les enfants, à cause des enfants, les enfants constituent dans la famille Tsigane, n'est-ce pas? Ils sont choyés, ils sont aimés, ils sont... C'est très important, les enfants dans la famille Tsigane. Et donc, les familles ont peur. On va se faire prendre. Les enfants vont crier, les enfants. Et donc, certains hésitent. Mais d'autres s'évadent. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, les mêmes familles. De Jargeau, d'Arc-et-Senans, dans le Doubs. Oui, alors carrière, que sont les lieux, les carrières, des forts, des abandonnés, un haut lieu de l'architecture mondiale, Le Doubs, l'architecte Le Doubs, à Arc-et-Senans, la fabrique, ce qu'on peut visiter, n'est-ce pas, de cette saline royale, aujourd'hui, qui était à l'époque, en 1942, eh bien, elle était abandonnée. Bon. Alors là, dans des carrières, dans des anciennes forges, etc. Et ou dans des camps, le camp, entre parenthèses, type, comme celui de Poitiers, c'est-à-dire avec des baraquements et des fils de fer barbelés. Ou d'un côté, les Juifs, de l'autre, les Tsiganes. Juifs et Tsiganes étaient à Poitiers. Et il y a des témoignages, n'est-ce pas, bouleversants de la part... des familles israélites qui ont survécu, mais dont les parents, dont la mère ont été assassinés à Auschwitz, qui racontent dans un petit documentaire récemment, il y a quelques années, que les Tsiganes simulaient des combats au couteau pour attirer l'attention des gardiens dans l'espoir que certains juifs pourraient s'évader. Alors, vous voyez cet acte-là qui a été dit par une personne qui était, en tant que juive, internée, dont la mère a été assassinée à Auschwitz. Adèle ne me fait pas signe, mais 5 minutes, je pourrais, n'est-ce pas, aussi évoquer en tant que... C'est une figure d'un philosophe qui m'est... Oui, je veux dire que oui, qui m'est cher, comme peut-être pour vous aussi. Je songe à Derrida. Hein. Derrida, dans un documentaire, a dit, quand il avait 13 ans, 14 ans, hein, le décret Crémieux, il a perdu la citoyenneté française, il était à Alger, et il s'est retrouvé en prison. Il avait 13 ans. Et il s'est trouvé dans une cellule avec un Tsigane hongrois dont, je le cite, l'hospitalité absolue, je cite, lui a permis de s'en sortir. Donc vous voyez, l'hospitalité inconditionnée, inconditionnelle, qui n'est pas liée à ceci ou à cela, mais qui est le don, sans calcul. Eh bien, il y a, n'est-ce pas, des témoins. Nous avons des témoignages de cet ordre qui, je pense, méritaient d'être mentionnés. Les familles qui s'évadent sont reprises, la plupart. Ils sont reprises au moment de passer la ligne de démarcation. Elles sont reprises au moment parce que la police enquête et parce que la gendarmerie se rend là où ont été assignés à résidence. Oui, assignés à résidence parce que j'ai dit il y a les autres familles qui sont assignées en zone libre et même aussi en zone occupée. Même aussi en zone occupée, hein, il y a celles qui sont dans les camps, mais aussi on trouve des familles assignées en résidence. Mais en zone libre, la plupart sont assignées en résidence. Et donc ceux qui s'évadent, ils vont retrouver parfois, ou bien ceux qui ont des maisons, qui n'ont pas été assignées en résidence. Et la police et la gendarmerie les retrouvent, et on les reconduit au camp. Résistance, il y a eu. Forme de résistance. Et il y a eu d'autres formes de résistance aussi, n'est-ce pas, de Tziganes dans les maquis. Hein à titre, soit à plusieurs membres d'une famille, soit à titre individuel. Hein, il y aurait aussi, nous avons des traces concernant les actes de résistance de certains d'entre eux, de certains Tziganes, de certains Gitans, de certains Manouches, de certains Roms qui ont donc participé à la résistance. La libération, on aurait pu penser, n'est-ce pas, que la libération aurait constitué pour les Tziganes une libération des camps. La guerre n'est pas terminée, le conflit, la guerre n'est pas finie, la campagne des Ardennes. Et la situation ne change pas pour les Tziganes. Ah, il y a bien des familles qui sont libérées, oui. Il y a des libérations qui se font dans certains camps, oui. Au cas par cas, examiné. Hein, comme des familles ont été, certaines ont été libérées en 1943, avant. En fonction de l'autorisation du préfet, du département où doit se rendre la famille, s'ils ont une activité, s'ils ont une maison, si, etc., etc. Et donc, certaines familles, pas mal de familles, 1700 personnes quand même, hein, fin 44, début 40, hein, qui sont internées, Tziganes, demeurent dans des camps, 5 ans, j'ai dit, la totalité des camps c'est 30, donc 5 ans, Saint-Maurice, Jargeau, Montreuil-Bellé jusqu'en donc 44. Ah oui, donc je vais m'arrêter. Montreuil-Bellé et surtout aussi le camp d'Angoulême, puisque Angoulême, c'est, n'est-ce pas, le dernier camp qui ferme, c'est-à-dire fin mai 1946. Alors un sort à part, 46. Voilà, le dernier interné à être libéré, c'est un Tzigane, c'est symbolique, en 46. Bon. Pourquoi ? Parce que, quand on étudie les archives, la correspondance entre le ministère de l'Intérieur, l'administration, la direction administrative, la gestion des camps, eh bien, il est dit qu'au nom du décret du 6 avril 1940, il constitue quand même peut-être un danger pour l'ordre. Et au nom du décret, on les maintient. On va les maintenir. Certains encore, je vous ai donné un chiffre, dans les camps. Et on va considérer même qu'ils sont comme assignés à résidence. Ils sont comme assignés à résidence parce qu'ils sont assignés à résidence au nom du décret du 6 avril. Et ce décret va être abrogé quand ? Au mois de mai 1946. Mai 1946, c'est la loi qui met officiellement fin aux hostilités. qui est, vous voyez. Donc on va jouer aussi sur cet élément qui justifie le maintien des familles tziganes. Quand les familles tziganes quittent les camps, sortent des camps, personne n'est là pour les accueillir, pour les aider. Donc c'est à pied, dans le dénuement, que les familles tentent de retrouver les leurs. Un dernier mot, je n'ai pas parlé, peut-être qu'on va l'aborder, je n'ai pas parlé des déportations. Je n'ai pas parlé de la politique raciale allemande qui occupe. Je dirai un mot sur la mémoire. C'est très rapide. La mémoire. Rien dans les livres manuels de première et de terminale. Rien. Depuis les années 60, 4, depuis 90 et avant, n'en parlons pas, a fortiori. Mais rien. Il y a un seul livre de première, manuel de première, qui mentionne un camp de nomades, d'internes, Salières, dans le sud. C'est tout. Non, on n'en parle pas. Autre chose, les plaques. Est-ce que les communes ont rendu hommage après à travers des stèles, etc. Oui, la première plaque, c'est Mérignac. Seulement, la première plaque de Mérignac, il ne figure pas les tziganes sur la plaque. Les dates qui figurent, c'est 1941, 1944. 44, ça ne va pas, c'est 45. 41, ça ne va pas, c'est 40, puisque le camp de Beaudésert est créé pour interner les tziganes, les familles tziganes. 321 personnes au camp en novembre. Donc, on a rajouté. Quand a-t-on rajouté? En 2005. Bon. On a rajouté comment? En bout de ligne, la première ligne, comment? Diga, un tiré, ne. C'est pas mal, c'est assez parlant. Je vais pas faire de plus de commentaires, n'est-ce pas? Bon. Plus de commentaires à ce sujet. Ça a été rajouté, on le voit, la plaque n'a pas été changée. Enfin, diga, à la ligne, un tiré, ne. La ponctuation aussi n'est pas bonne. Enfin, les virgules sont mal placées. Il y a une plaque additive qui a été ajoutée. Et cette plaque additive dit que, ici, des milliers d'étrangers... Ah, on avait oublié les étrangers aussi. Sur la première plaque de 1985. Ici, des milliers de juifs, d'étrangers et de tziganes ont été déportés dans les camps de la mort. C'est faux. C'est pas faux. Oui, pour les juifs. Pas pour les tziganes. Les tziganes n'ont pas été déportés du camp de Mérignac. Alors vous voyez, c'est très intéressant le mécanisme, n'est-ce pas, idéologique, mémoriel, qui consiste à passer d'un effacement, d'un oubli, à une surexposition qui, n'est-ce pas, amplifie, par amplification, qui falsifie la vérité historique. Bon, je vous laisse soin de... Bien sûr, de penser comment, n'est-ce pas, à la façon dont opère ce mécanisme de renversement. Bien. Aujourd'hui, donc, 14 plaques sur 30 camps, mais quasiment 9 plaques depuis les années 2003. Voilà. Eh bien, je m'arrête. Je voudrais vous dire que, n'est-ce pas, ce drame des tziganes de France, des tziganes français, c'est, n'est-ce pas, une histoire beaucoup, beaucoup franco-française qui s'est passée pendant la Seconde Guerre. Et à ce titre, il a été décidé, cette année, à partir du 6 avril, une association avec la revue Études Tziganes, auquel je participe, mais aussi une association, la FNASAT, d'organiser cette année, dans les régions, des séries de manifestations, d'expositions, de réflexions à la mémoire des tziganes français. Je vous remercie.